m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à ce Restons Courtois du jeudi 5 février. Restons Courtois du jeudi. Donc, Restons Courtois est animé par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc.
Je suis avec Jérémy Houy, entrepreneur et éditorialiste. Bonsoir, Jérémy. Bienvenue.
Bonsoir, Marc. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous.
Et nous accueillons Marie De Greff. Marie De Greff, rédactrice en chef adjointe du service économie de Valeurs Actuelles, et Marie De Greff qui va ouvrir cette émission en nous parlant d'un sujet ô combien important en ce moment, puisqu'on va parler de l'or, Marie.
Oui, bonsoir Marc, merci beaucoup, parce qu'effectivement, il me semblait important de revenir sur cette ruée irrationnelle de l'or, et d'autant plus qu'il est 17h30 que la Bourse de Paris vient de clôturer et que l'once d'or affiche un cours de 4830 $. Et de mémoire d'analyste, depuis une semaine, on n'avait jamais vu une telle volatilité. Puisque vendredi dernier, l'once d'or cotait 5500 $, soit près de 20% plus cher. En réalité, depuis le début de la semaine, c'est le grand suspense. Soit l'or enfonce les 4300 $ et on pourra dire que la bulle qui s'était constituée depuis 2023 a éclaté. Soit vos auditeurs pourront continuer à dormir tranquille puisque l'or reprendra sa ruée vers de nouveaux sommets. Alors pourquoi cette hausse vertigineuse depuis 2023 ? Si on revient aux fondamentaux, il n'y a pas une seule raison, mais plusieurs explications qui expliquent cette fameuse pression qui a poussé ce métal au plus haut. La première raison est historique. Elle relève de la relation qui lie l'or aux monnaies fiduciaires, avec un constat. Depuis août 1971, même si vous n'étiez pas né, Marc, c'est la fin des accords de Bretton Woods et le dollar a perdu 99% de sa valeur depuis. Il y a aussi eu l'action des banquiers centraux qui n'ont eu de cesse ces dernières années d'imprimer de la monnaie pour soutenir l'économie. Rappelons-nous que pendant la pandémie, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont conjointement imprimé l'équivalent de 9 000 milliards de $. C'est titanesque. Cet argent a non seulement alimenté la bourse, mais a aussi été utilisé pour acheter de l'or par les particuliers, par les investisseurs et aussi par les banques centrales. En 2025, les banques centrales, notamment en Pologne, ont acheté 863 tonnes et la Chine, qui est le premier producteur mondial d'or, en a sûrement davantage que ce qu'elle affirme détenir officiellement.
Oui, d'autant que les risques géopolitiques ont tendance à pousser l'or vers le haut.
Oui, alors on le sait, l'or est un actif refuge par excellence. Il s'est apprécié en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis en 2024 lors du conflit israélo-palestinien après l'attentat du 7 octobre. Puis il y a eu les tensions entre la Chine et Taïwan, puis Trump est arrivé et maintenant il doit gérer la fin du conflit russo-ukrainien, clarifier sa position sur le Groenland, tandis que les tensions entre les États-Unis et l'Iran n'ont jamais été aussi importantes.
Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer que l'or maintenant baisse ?
Parce que justement, on a basculé dans l'irrationnel. C'est la spéculation qui avait porté l'or à de tels niveaux que le marché finalement dit stop depuis quelques jours. Vous savez, les analystes boursiers adorent trouver des explications pour expliquer des mouvements de prix. La semaine dernière, ils ont trouvé un prétexte, puisque le 30 janvier, Donald Trump a annoncé la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale en remplacement en mai prochain de Jérôme Powell. Voilà l'élément déclencheur, parce que le futur patron de la Fed, membre de son conseil entre 2006 et 2011 et ancien conseiller à la Maison-Blanche, est perçu comme un homme consensuel et rassurant, l'opposé d'un Donald Trump. Il s'est déclaré contre toute hausse des taux directeurs et pour une diminution du bilan de la Fed. De quoi renforcer l'image d'indépendance de la Réserve fédérale, mais aussi plus concrètement de renforcer la confiance dans le dollar et par ricochet de réduire l'attrait de l'or. Et c'est dans ce contexte que dans les salles de marché, les programmes informatiques se sont emballés vendredi dernier. Des modèles basés sur des mathématiques financières qui font que le franchissement d'un cours à la baisse alimente des programmes de vente à découvert et qu'une spirale baissière se met en marché.
Mais alors jusqu'où l'or peut baisser du coup, Marie ?
Ben, on en revient en fait à la question de départ. Tout dépendra de la confiance dans les monnaies, à commencer par la confiance dans le dollar. Pour un gérant que nous avons interrogé cet après-midi, Quand le dollar se réveillera et arrêtera sa tendance baissière pour repartir à la hausse, les métaux précieux devraient effectuer une belle correction. Ça veut dire que pour nos auditeurs qui ont multiplié leur mise par 2 ou par 3, il est encore temps de prendre ses bénéfices.
Merci beaucoup pour ces conseils avisés, Marie de Greffe. Merci pour cette chronique. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique éco. En attendant, merci, chers auditeurs, on va continuer de parler d'or puisque la commission parlementaire sur l'audiovisuel public continue. Valentin Gore, vous la suivez avec assiduité. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous avons eu la ministre de la Culture pour encore quelques jours, Rachida Dati, et puis cet après-midi, Laurence Bloch, qui est l'ancienne directrice de France Inter. Elle est restée assez longtemps et a été, somme toute, assez emblématique à ce poste, et qui est aujourd'hui chargée de ce qu'on appelle en très très mauvais français le projet de holding, de regroupement plutôt, de Radio France et de France Télévisions, qui est le projet de Rachida Dati et d'Emmanuel Macron. Pour l'audiovisuel public, vous savez, c'est la grande méthode des énarques. Quand vous avez deux choses, vous en faites une seule. Quand vous avez une seule structure, vous en faites deux. Ça marche toujours.
C'est ça qui est efficace. On le rappelle, hein, le service audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an prélevés directement dans la poche des Français. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine depuis le début. Jérémy Bouygues, vous avez sans doute suivi cette affaire. On nous présente souvent cela comme une tentative de la droite de museler l'audiovisuel public dans une espèce de guerre culturelle entre la gauche et la droite. Or, c'est ça qui me frappe, c'est qu'en fait, on rappelle simplement que Charles Alloncle, il est député de la République, il fait le travail pour lequel il a été élu, et surtout, il demande des comptes à une administration publique sur l'argent public, c'est-à-dire en se basant sur des données comme celle de la Cour des comptes. Et on voit l'espèce de récit de guerre culturelle, guerre politique, parce que la droite n'aime pas la culture, la droite n'aime pas l'information, la droite n'aime pas la liberté. Jérémy Bouygues, comme vous qui voyez ça d'un œil un peu moins politique, sans doute, parce que vous êtes moins dedans, comment vous analysez ça ?
C'est un représentant du peuple qui demande légitimement où va l'argent du peuple. Voilà comment je résume cette opération. Alors, si vous me permettez d'ailleurs, je dois dire que grâce à cette séquence, j'ai découvert, et la France a découvert, et les gens de droite ont découvert, ce personnage, Charles Alloncle, que je ne connaissais pas personnellement avant ces derniers jours. Et je trouve ce garçon absolument remarquable, un courage politique, une façon, le fond et la forme. Donc c'est ce qu'il pourra en retirer, parce que je pense que cette tragicomédie va bientôt se terminer et on passera à la polémique d'après dans 3 jours. Mais il restera quelque chose, puisque je pense qu'on a découvert un personnage.
Mais c'est vrai qu'en plus, quand ça m'arrive de discuter avec des confrères du service public, parce que j'ai la chance ou pas, selon ce que penseront les auditeurs, d'être souvent sur France Info, et quand vous discutez avec certains, notamment quand on parle par exemple de Rachida Dati, il y a une espèce de malaise, parce que si vous voulez, il y a une espèce de sentiment d'être pris en tenaille et par la commission parlementaire et par la ministre de la Culture, parce qu'ils disent traditionnellement, ça fait 40 ans que les ministres de la Culture sont des promoteurs du service audiovisuel public, et là, ils se retrouvent avec une ministre de la Culture qui sent les lâcher complètement hors race campagne, et quand même un petit peu plus frileuse, déjà parce qu'elle a fait l'objet d'enquêtes du service public contre elle. Je vous rappelle qu'elle a quand même eu pris des accusations de corruption, notamment alimentées par un complément d'enquête, et que on se rappelle de cette séquence incroyable révélée par l'Incorrect de Thomas Legrand et de Patrick Cohen en pleine collusion avec des cadres du Parti socialiste en expliquant qu'ils allaient s'occuper de Rachida Dati. C'est un petit monde qui explose pour vous, Valentin Gore. Qu'est-ce que c'est que cette séquence
qui explose? Je ne sais pas. Moi je dirais, au risque de surprendre, que et Rachida Dati et Charles Alloncle sont à leur manière des défenseurs de l'audiovisuel public, parce que au fond, défendre l'audiovisuel public, c'est aussi vouloir le réformer aujourd'hui, parce que si on continue dans la lignée qui est prise depuis plusieurs années, dans ces dérives accablantes qu'on voit, vous disiez 4 milliards d'euros de budget, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Ce matin, Charles Alloncle, dont vous avez rappelé le talent de précision, a rappelé que le budget du patrimoine, par exemple, c'est 4%. 4,75% du budget du ministère de la Culture, c'est 50% pour l'audiovisuel public. Alors il y a quand même évidemment une question de hiérarchie à se poser. Charles Alloncle ne s'est pas prononcé par exemple pour la privatisation de l'audiovisuel public, ce qu'on entend à droite, ce qui est une position qui se défend, mais il y a aussi des gens, on peut en faire partie, qui peuvent se dire qu'on pourrait imaginer un audiovisuel public tel qu'on l'a connu en France, sans glorifier l'ORTF, mais qui était quand même un petit peu plus haut de gamme, avec des émissions qui élevaient l'esprit. Il y a plusieurs choses. Vous rappelez Rachida Dati qui a effectivement dit ce matin, notamment que selon elle, dans le cadre d'un complément d'enquête qui lui a été consacré, je crois que c'est au printemps dernier, l'un des membres de sa famille, elle n'est pas trop rentrée dans les détails, mais une personne qui se trouve en difficulté, en situation de difficulté, aurait été approchée par un journaliste missionné lui-même par un journaliste de complément d'enquête, et on lui aurait proposé pour son témoignage une rétribution financière, ce qui est évidemment, si ça devait être avéré...
Et déontologiquement, n'est pas top.
N'est pas tout à fait en tout cas, à valeur actuelle, on ne pratique pas.
Déjà parce qu'on n'a pas d'argent.
Mais en tout cas, la question que vous soulevez est extrêmement intéressante. Effectivement, vous le soulignez, c'est vrai que au sein des programmes présidentiels de différents candidats de droite ces dernières années, on a vu beaucoup de références à une privatisation de l'audiovisuel public, à laquelle moi je suis totalement opposé, parce que je trouve que, par définition, l'audiovisuel public doit rester public. Mais évidemment, effectivement, il faut nettoyer les écuries d'Augias et à un moment dépolitiser. Voilà, on ne veut pas, nous, gens de droite, que l'audiovisuel public bascule à droite. Simplement, on demande un devoir de neutralité à toutes les composantes de cet écosystème, les journalistes, les intervenants, les chroniqueurs, les sociétés de production.
En tout cas, chers auditeurs, je rappelle que vous êtes dans Restons Courtois et animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Vous pouvez évidemment réagir à cette émission à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Pour le reste du sommaire, je suis avec Valentin Gore et Jérémy Bouy sur le plateau. À 17h45, nous accueillerons par téléphone Gilles-William Golnadel avec l'avocat, avec l'avocat bien connu des auditeurs. Nous reviendrons sur le procès, sur les réquisitions de la cour d'appel du parquet. Pardon, de la cour d'appel vis-à-vis de Marine Le Pen. Alors avec lui, on reviendra évidemment sur ses réquisitions, sur l'avenir politique aussi de Marine Le Pen, puisque sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 semble être remise en question. Nous reviendrons ensuite avec l'historien Dimitri Casali sur les pressions de l'extrême gauche qui l'empêche de tenir son spectacle sur l'histoire de France. Puis à 19h, nous serons avec Guillaume Bernard, avec qui nous reparlerons justement de cette droite en pleine recomposition, dans lequel évidemment se mêle évidemment le procès de Marine Le Pen, mais dans lequel se mêlent aussi toutes ces personnalités qui sont en train de préparer l'élection présidentielle 2027 qui approche mine de rien à grands pas. Il y a un sujet aussi qui a défrayé l'actualité ce matin, Valentin Gore, et j'aimerais avoir votre analyse dessus. Il y a eu une nouvelle candidature à l'élection présidentielle, on ne l'attendait pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedge, connu pour avoir été pendant un temps un très proche collaborateur de Jean-Luc Mélenchon dans les années 2000, avant de s'en éloigner. Jérôme Guedge, candidat à l'élection présidentielle, vous voyez ça comment, Valentin ?
Oui, vous dites proche collaborateur, je crois même qu'il a été son assistant parlementaire, ce qui est quand même assez stupéfiant. Écoutez, la candidature de Jérôme Guedge est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est le moins qu'on puisse dire ce matin sur France Inter, on en parlait au micro de Monsieur Benjamin Duhamel. Évidemment, Jérôme Guedge, alors on peut se dire c'est une candidature de plus dans cette gauche qui est un peu aux confluences entre le mélenchonisme et le hollandisme. On a eu Madame Tondelier, on a eu Monsieur François Ruffin, qu'on a pu voir aux 20h de TF1. On avait l'impression qu'il croyait lui-même pas à sa candidature qu'il était pourtant en train d'annoncer. Et ce matin, Monsieur Guedge, alors ça a été, moi j'ai trouvé, j'emploierais volontiers le mot de naufrage. Parce qu'on a vu un homme qui se présente à la présidentielle et qui n'avait pas le début d'une once de on parlait de once d'or, d'une once de proposition à faire, qui se contentait
une
de
tendance baissière également.
Voilà, tendance baissière qui répétait un peu comme le cabri, la République sociale, dont il veut faire visiblement un espèce de slogan marketing. Enfin, vraiment, on se demande, on pourrait quand même au moins imaginer, bah, par exemple, il n'a pas dit un mot ni sur les affaires étrangères, ni sur la défense, qui sont quand même au cœur de la fonction présidentielle. Donc on a envie de dire que c'est un hors-sujet total.
C'est ça qui est fantastique. Ces gens-là sont obsédés par le sociétal. Voilà, et l'extérieur et la place de la France dans le monde ne les intéressent pas. Ils n'ont pas de vision macro. Et alors moi, encore une fois, on est entre nous, je vais faire une confidence. Mais je rêverais que ce monsieur aille au bout, qu'il ait ses 500 signatures et qu'il porte sa candidature, parce que ça viendrait siphonner Gabriel Attal.
C'est encore le
jeu des vases communicants. Ce qui ira à l'un n'ira pas à l'autre, et dans le mouchoir de poche dans lequel va se jouer la place au second tour, si monsieur Guedge peut aller enlever 2% à Gabriel Attal, je signe tout de suite.
C'est de toute façon, c'est ce qui motive un petit peu toutes ces candidatures à gauche, puisque les candidatures à droite, elles aussi sont extrêmement nombreuses et sont extrêmement faibles, puisqu'on a l'impression que le ticket d'accession au second tour, il est autour de 10% aujourd'hui. C'est un petit peu le ticket du second tour pour une élection municipale à Paris. Au fond, est-ce que tout le monde n'est pas en train de se dire, après tout, pourquoi pas moi? Enfin, vous voyez, moi, je vois les candidatures d'Aurore Berger, même Agnès Pannier-Runacher, qui a expliqué que pourquoi pas, Jérôme Guedj, Olivier Faure, Marine Tondelier, François
Ruffin. Braun Pivet qui y pense aussi.
Il y a Braun Pivet qui y pense aussi. En fait, dans l'absolu, tout le monde y pense, puisqu'après tout, pourquoi pas?
Oui, Valentin pourquoi Gore. Pas? Ben, c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez eu à la fois François Hollande, dont on se demande aujourd'hui encore comment il a pu être élu président de la République, et Emmanuel Macron, même chose, en 2017, bon, qui s'est présenté lui aussi, n'avait pas vraiment
encore
de programme.
Plus Macron, d'ailleurs.
Oui, voilà, sortant un peu de nulle part, si on veut dire. Donc évidemment, il y a. Et puis aussi, je crois qu'il y a une espèce de tassement dans la politique française. Il n'y a plus, dans les années 70, on avait quand même des grands chefs, quoi qu'on en pense. On avait Marchais, Chirac, Mitterrand, on avait quand même des gens qui surnageaient un petit peu. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une espèce de marécage où nagent les seconds couteaux, et il n'y a pas beaucoup de premiers couteaux, si je puis dire.
Voilà, donc, et tout très prétentieux, parce que ça dit aussi beaucoup de choses de la façon dont ces gens se voient.
Absolument.
C'est ça. Et puis, c'est aussi une manière de se placer en se disant, c'était un peu le syndrome Manuel Valls qui s'était présenté à la primaire du Parti Socialiste, qui a fait 5%, mais qui a fini Premier ministre dans l'absolu parce qu'il a réussi à se placer. Il a réussi à sortir de l'anonymat. On va quitter de quelques instants le Parti Socialiste puisque nous sommes en direct avec Gilles-William Golnadel. Bonsoir, maître. Comment allez-vous?
Ça va et vous? Je suis ravi d'être avec vous et avec Voltaire et avec Valeurs Actuelles. Très content.
Parfait. On est ravis de vous avoir aussi. Alors, maître Golnadel, coup de tonnerre un petit peu dans les prétoires, enfin coup de tonnerre en même temps en écho un petit peu du premier. Marine Le Pen, les avocats généraux de la Cour d'appel ont confirmé un petit peu la première instance en confirmant 5 ans d'inéligibilité, 100 000 euros d'amende, 1 an de prison ferme, avec toutefois pas d'exécution provisoire. Alors, au premier abord, on pourrait tenter de se dire, Marine Le Pen pourrait donc potentiellement être candidate en 2027. Quel est votre sentiment, vous, déjà, sur les réquisitions et sur les conséquences politiques d'une telle décision?
Ben, écoutez, contrairement à ce que l'on dit, moi, je les trouve très sévères. Parce que je me permets de rappeler, ça me paraît très important, hein, qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Personne ne prétend que c'est pour s'enrichir personnellement. D'ailleurs, vous noterez, c'est une observation psychologique, vous noterez qu'il n'y a aucune opprobre attachée à ces réquisitions et à une éventuelle condamnation, parce que le peuple français a bien compris qu'il ne s'agissait pas, encore une fois, de cupidité. Dans d'autres affaires où, effectivement, il y a cupidité, je peux vous dire que la personnalité politique peut chercher un autre emploi. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Les personnes en question ne vont pas perdre une seule voix au sein du peuple. Ouais. C'est clair.
Évidemment, ce qui a interpellé aussi les élus du Rassemblement National, mais aussi leurs militants, c'est l'agenda judiciaire qui, objectivement, est le pire possible, et pour Marine Le Pen personnellement, et pour le Rassemblement National, puisque tout cela vient se télescoper avec la campagne présidentielle de 2027.
Ah ben, celui qui a un esprit chagrin a le droit de s'interroger, effectivement.
Parce que vous n'avez pas l'esprit chagrin, mais vous le faites.
Écoutez, je j'ai pas envie de faire de procès d'intention à ce procès. Je suis pas l'avocat du Rassemblement National ni de Marine Le Pen, donc ça n'est pas ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Lorsque l'exécution provisoire sur l'inéligibilité avait été prononcée en première instance. J'ai trouvé ça scandaleux à beaucoup d'égards. Pour le reste, c'est un dossier que je ne connais pas, mais il y a aussi, à mon avis, c'est l'avocat qui vous parle, mais vu d'avion, je ne suis pas sûr que les juges n'auraient pas dû invoquer le droit européen. C'est une affaire européenne, le droit européen n'a pas été invoqué. J'y vois pour ma part peut-être une cause possible de nullité si jamais les avocats utilisaient ce moyen.
C'est la question, parce que comme c'est au niveau européen, on ne peut pas parler de détournement de fonds publics. En fait, il y a une espèce de nuance à ce niveau-là.
En tous les cas, il faut invoquer les bons textes.
Ouais. C'est ça. Et concrètement, sur la suite, évidemment, donc les réquisitions vont se poursuivre. Enfin, en tout cas, la séance, ça va se poursuivre jusqu'au 13 février. Donc, c'est, évidemment, ce ne sont que les réquisitions. Hein, on précise aux auditeurs, ce ne sont pas les peines prononcées qui le seront courant de l'été. Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'attendrait pas la décision de la Cour de cassation pour se prononcer. Vous qui avez quand même l'habitude des procès, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il est courant de voir par exemple le juge suivre les réquisitions du parquet dans ce genre de cas, ou est-ce qu'on peut...
J'ai tout vu, moi. J'ai vu qu'il arrive évidemment qu'on suive les réquisitions. J'ai vu qu'on aille au-delà des réquisitions, ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'affaire Sarkozy, puisque le parquet n'avait pas requis d'exécution provisoire. Et j'ai vu aussi qu'on ne suive pas du tout les réquisitions. Donc, voilà. Mais enfin, dans cette affaire-là, je pense qu'il y a de fortes chances ou de risques que la Cour suive les réquisitions.
Et est-ce que vous comprenez, du coup, la décision de Marine Le Pen de ne pas attendre la décision de la Cour de cassation pour se prononcer?
Écoutez, moi, je ne suis pas féru d'affaires politiques, d'élections. Oui. Donc j'imagine qu'elle a dû calculer que ça serait trop tard pour elle de pouvoir s'y mettre si elle attendait, et de s'y mettre avant, ça n'avait pas beaucoup de sens, parce que ensuite, évidemment, le parti ne pourrait pas changer de cavalier, si j'ose dire. Donc j'imagine que c'est une réflexion purement politique, je lui fais confiance sur ce point de savoir ce qu'elle fait, ou ce qu'elle ne fait pas.
Valentin Gore a une question pour vous, maître.
Oui, bonsoir maître. Alors je rebondis sur la question de Marc. Est-ce que tout de même la décision, je pense que beaucoup d'auditeurs doivent le penser, est-ce que tout de même la décision de Marine Le Pen, finalement ce n'est pas donné quitus au juge et laisser la présidentielle entre les mains des juges, ce qui est un procès qui revient évidemment souvent. Est-ce que ce n'est pas une attitude de retrait qui peut donner raison à ce système que dénoncent beaucoup de Français?
Je vous avoue que j'ai du mal à incriminer la décision de Marine Le Pen, qui sait ce qu'elle fait. Ça n'est pas de sa faute si le calendrier judiciaire est ainsi fait. Si elle pense qu'elle n'a plus le temps ensuite de se pourvoir en cassation pour tenter de voir annuler cette décision, ce qui serait déjà hypothétique. Qui serait déjà hypothétique, encore une fois, qu'il y a des moyens de nullité de fond qui pourraient, je l'ai vu souvent, qui pourraient la relaxer, hein, sur le plan strictement juridique, on oublie le factuel. Mais elle n'est pas, elle sait ce qu'elle fait, elle gouverne sa boutique, donc si elle pense qu'ensuite ce sera trop tard pour s'encadiser, j'ai tendance à penser qu'elle sait que ça peut difficilement être interprété autrement, non?
Autre sujet, maître Goldadel, puisqu'on sait que vous suivez aussi ce dossier de très près, et en tant qu'avocat, et en tant que contempteur du service audiovisuel public. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public est encore en cours, les auditions se succèdent. Vous regardez ça avec votre œil évidemment de citoyen, d'avocat. Qu'est-ce que vous pensez de cette commission, du travail? Qu'est-ce que vous pensez du travail du rapporteur Charles Alloncq, qui est au centre de toutes les critiques à gauche et de beaucoup d'admiration à droite?
Ah, bah écoutez, je ne pense que du bien de Charles Alloncq. Hein. Il fait son travail très sérieusement. Il va au cœur des choses. Il pose les questions qu'il convient de poser. Ces contempteurs, ils font ce qu'ils veulent. J'avoue que je suis beaucoup plus sévère sur la manière dont le président, M. Petraeus, j'ai du mal toujours
Patrilétus,
oui.
Jérémy de son prénom.
Voilà, comme vous dites. Bon, eh ben, écoutez, j'ai du mal à apprécier M. Jérémy pour deux raisons générales et personnelles. Sur le plan général, j'ai trouvé que la manière dont il a interrompu grossièrement la commission d'enquête hier, l'audience, a été tout à fait particulière. On a l'impression qu'il est l'avocat de l'audiovisuel du service public. C'est quand même un peu particulier. Les reproches qui sont faits à M. Alloncq m'amusent beaucoup, parce que moi, j'ai bien suivi aussi la commission d'enquête sur CNews et C8. Hein. Et je peux vous dire que le rapporteur de l'époque, qui est membre de la France Insoumise...
Dont le député Aurélien Saint-Toul.
Voilà. Eh bien, il était autrement plus agressif que Charles Lalonde. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, j'ai un grief d'ordre personnel qui est très récent. Hier, j'ai indiqué sur X, escalité d'avocat de la CGC Média, que celle-ci m'avait demandé de saisir la justice à l'encontre du président qui avait affirmé qu'elle avait été convoquée. Or, la CGC Média dément formellement avoir été convoquée. Et on peut, un esprit chagrin, encore une fois, pourrait peut-être se demander si la CGC Média, qui est maintenant majoritaire avec EFO au sein de Radio France, ils ont détrôné à eux deux le monopole historique de la domination historique de la CGP. Il se trouve que ma cliente, la CGC Média, est extrêmement critique à propos de l'audiovisuel public en général et de France Télévisions en particulier, dont elle dénonce régulièrement la gabegie.
Ouais.
Et c'est ce qui explique peut-être qu'elle n'a pas été convoquée aujourd'hui au commencement. Donc je l'ai indiqué sur X, je l'ai même répété à CNews hier et aujourd'hui, au début des débats, monsieur le président m'a mis en cause personnellement en indiquant que ça n'était pas vrai. Alors, je suis désolé, la CGC Média a, une fois de plus, aujourd'hui, sur X, maintenu qu'elle n'avait pas été convoquée. Elle sommait le président de prouver le contraire. Et par conséquent, quand monsieur le président m'accuse, moi, de faire en sorte que de faire perdre la sérénité au débat, celui qui fait perdre la sérénité au débat, c'est celui qui l'a interrompu grossièrement hier et qui, semble-t-il, raconte des histoires aujourd'hui.
Pour conclure, Gilles Willem Golnadel, est-ce que on a l'impression, en écoutant cette commission, c'est pour reprendre les mots de Mathieu Bock-Côté, qu'il suffit que la gauche se soit contestée pour qu'elle se sente assiégée. Est-ce que cette commission, c'est pas un peu justement le trouble fait qui vient interrompre un petit milieu qui, dans l'absolu, vivait très tranquillement au vase clos?
Je ne veux pas plaider pour l'extrême gauche, mais mettez-vous à la place de cette pauvre extrême gauche. Elle a exercé une domination sans partage pendant des décennies sur la France, y compris évidemment sur l'audiovisuel de service public. Et voilà que cette domination est contestée. Eh bien, ils ne sont pas habitués. Donc, quand vous n'êtes pas habitué et que vous êtes, c'est un peu un enfant unique, bah, il devient méchant, il devient mauvais lorsqu'on lui retire son jouet. C'est pour ça qu'il ne supporte pas cette contestation, c'est pour ça qu'il ne supporte pas ces news, c'est pour ça aussi, ne vous y trompez pas, qu'il voudrait bien aussi supprimer X. Moi, si je n'avais pas X, je ne pourrais pas contester ce qui se passe. Je n'avais pas X, je ne serais pas au courant qu'il y a une nonagénaire qui, à Nice, a été violée par un OQTF tunisien parce que, constamment, les médias en majesté sont branchés sur Minnesota. Minnesota, c'est quand même beaucoup plus important que la ville de Nice en France, vous comprenez?
Bien sûr, surtout pour des Français.
Oui, l'extrême gauche, elle devient méchante. Ça, c'est, elle l'a toujours été. Sur le fond, mais là, quand on veut lui enlever son jouet, ou même pas, quand on veut simplement vouloir partager l'objet en question, eh bien, elle sort ses griffes. Et puis en plus, je pense que au fond des choses, elle a perdu également son assurance intellectuelle et culturelle. Elle doit avoir quand même, malgré tout, le pressentiment qu'elle est un peu bête.
En tout cas, qu'elle ne peut plus régner sans partage. Et effectivement, c'est lorsqu'il faut partager que les enfants piquent des colères. Merci beaucoup, Maître Golnadel, d'avoir été avec nous en direct de Restons Courtois à l'antenne de Radio Courtoisie. À très bientôt pour une nouvelle émission.
Au revoir.
Et voilà, chers auditeurs, c'était Gilles William Golnadel, avocat. Avec lui, nous avons évoqué les réquisitions du parquet dans le procès de Marine Le Pen et la commission d'enquête du service public. C'est tout un sujet, ça, quand même. La gauche qui doit apprendre à partager, Valentin Gore.
Oui, c'est vrai, on voit que ça n'est pas facile. On avait dans ces auditions la semaine dernière, par exemple, où il y a même un peu plus d'une semaine, les syndicats de l'audiovisuel public, et Gilles William Goldanel le rappelait, même au sein de France Télévisions, il y a des changements importants. La CGT, il l'a dit, a été battue aux dernières élections professionnelles, et le syndicat FO qui domine avec ce petit syndicat, la CGE, dont il a parlé, ce sont des réformistes. Et moi, j'ai entendu un syndicaliste FO, pourtant, a priori, je me méfiais un peu, FO, Force Ouvrière, a priori, je m'y attendais pas vraiment, qui était très en demande de réforme, qui était même un peu en avant de la main, même par rapport à Delphine Ernotte, qui était le premier à dire qu'il fallait réformer l'entreprise, qu'il fallait être plus efficace, qu'il fallait sortir notamment dans l'information de certaines mauvaises habitudes, où c'est vrai, les députés le voient souvent. Quand France Télévisions vient les interviewer, ils voient arriver trois personnes, et quand c'est une chaîne privée, une personne. Alors c'est tout de même un peu étonnant.
Jérémy Bouy.
Vous savez, dans les questions qui ont été soulevées par Charles Lancq, il existe aussi une autre dimension. On a beaucoup commenté ces débats à travers le prisme droite-gauche, politique française, politique nationale. Il a fait remarquer hier ou avant-hier que Media One, la société de production qui traite la majorité des reportages de France Télévisions, était détenue à majorité par les capitaux américains, par un fonds de pension américain. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les programmes télévisuels qui sont présentés aux Français sont fournis et financés par un fonds d'investissement américain.
Et on a vu la colère d'ailleurs du président Patrier Lettus lorsque oui. Charles Lancq a osé
peut-être le début de commencement d'un conflit d'intérêts.
En tout cas, on n'a plus notre avocat en
ligne, donc on va passer au sujet d'après.
On n'a pas notre avocat pour nous avertir.
Mais c'est intéressant, voilà,
également. Ça démontre bien les ramifications.
Moi, je dirais tout de même, pour suivre ces auditions, que je crois qu'il y a aussi un problème, j'allais dire, de comportement de la part du président, qui est quand même quelqu'un qui, visiblement, est assez colérique, assez emporté, avec un tempérament assez tumultueux. Et c'est assez souvent, là, ça a été très repris, mais il est arrivé à plusieurs reprises qu'il se mette tout à trac, à crier, à protester, et à avoir une attitude qui est un peu étonnante de la part d'un président de commission qui doit quand même avoir pour rôle, j'allais dire, de garder une forme de sérénité.
Après, quand
dans
vous
débats.
Êtes bloqué entre Charles Lancq et Ercilia Soudet,
c'est compliqué.
Vous sous-entendez que les macronistes sont très émotifs?
Non, je crois que c'est son caractère, et après tout, chacun a son caractère. Mais,
vous voulez nous parler de l'extrême centre, Jérémy?
Il faut tout de même, je crois, endosser la fonction. Hein,
évidemment.
Quand on souhaite présider une commission d'enquête, et hier, on a vu très clairement qu'il a eu un coup de sang, un coup de colère, il s'est levé comme ça, il est ensuite revenu sur son siège, qu'il ne faut surtout pas faire quand on se met en colère, c'est la pire des choses. Si on claque la porte, il ne faut surtout pas revenir deux minutes après.
Et surtout, il y a eu un effet de rideau de théâtre qui s'effondrait, oui. puisqu'on a entendu, avant que les micros soient couverts, Charles Lancq l'interpeller. Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais encore des questions. Vous voyez, comme si finalement le rideau s'effondrait, que les comédiens se retrouvaient des artifices, et que finalement, en fait, c'est deux personnes qui en fait se connaissent évidemment et se parlent dans la vraie vie, parce que pour organiser une telle commission, il faut se parler de manière vraie.
Qui se parlait d'ailleurs plutôt bien jusqu'ici. Là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Qui travaillait plutôt en bonne intelligence, en tout cas en meilleure intelligence, parce que pour tout dire, au départ, il était plutôt question que ça soit un député MoDem, Monsieur Badanant, qui est député du Finistère, je crois, qui est peut-être un peu plus à gauche encore que Monsieur Patrier Lettus, en tout cas qui était très sur le frein, si je puis dire, dans les investigations de cette commission d'enquête. Mais je crois que ça tient aussi à son caractère qui est assez volcanique, comme chacun l'a vu hier.
Et on accueille en plateau Étienne de la Ruffie. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Marc.
Il y a un lien entre ces deux sujets, puisqu'on le rappelle, le service public audiovisuel, c'est 4 milliards d'euros, 50% du budget du ministère de la Culture, pendant que la sauvegarde du patrimoine ne pèse que 4% du budget. Et on a pu voir ça en Mayenne, dans le charmant village de, vous me direz si je prononce bien, de Kélène-Singo.
Oui, c'est ça.
En Mayenne, une église du XIe siècle qui était menacée de destruction, Étiennette.
Oui, exactement. Alors, c'est une longue histoire qui remontait déjà à plus de 2 ans. Ça faisait déjà 2 ans que l'église était. Que la mairie débattait de l'avenir de l'église. Et en fait, en novembre 2025, la mairie a acté sa désacralisation et sa démolition parce que, tout simplement, l'église était complètement désaffectée, en fait. C'est le schéma classique, une église, une église qui n'a pas été entretenue et donc qui tombe.
Et la facture qui s'alourdit, et puis on se réveille au moment où elle menace de s'effondrer.
Exactement,
quoi, en fait.
Et donc là, comme la facture est trop, trop lourde, et ben on décide de la démolir. Mmh. Et donc, elle devait être démolie ce 4 février, et grâce à un recours d'urgence patrimoine, eh bien, sa démolition a été suspendue. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand, mais bon, pour l'instant, elle est saine et sauve.
Donc, urgence patrimoine d'Alexandra Sobzak, donc, qu'on s'est très mobilisé sur ces sujets-là. Quelle raison avait. Le maire avait simplement évoqué le mauvais état de l'église et la facture trop lourde, quoi. En
fait. Exactement. C'était. Il fallait réunir 600 000 euros pour restaurer l'église entièrement. Et donc, pour une petite commune de Mayenne de 2000 habitants, eh bien, forcément, c'était un budget inaccessible. Et donc, le maire avait donc décidé de la détruire. Et.
Il y a eu une réaction des habitants de cette ville. On a senti qu'ils étaient plutôt en accord avec le maire, qu'il y avait eu quand même une mobilisation pour sauver cette église, parce que un édifice du 11e siècle dans lequel il y a 1500 ans d'histoire de ce village, c'est pas rien.
Alors les habitants pas tellement. C'est vrai que comme Alexandra me le disait, certains craignent peut-être pour leur place en crèche, pour leurs intérêts personnels, donc ils n'ont pas osé se mobiliser. Mais il y a un collectif qui s'est monté quand même. Et qui a monté une pétition qui a récolté aujourd'hui 27 000 signatures, donc c'est énorme, pour défendre donc cette église. Et donc pour l'instant, grâce à la fondation, à Urgence Patrimoine, il semblerait que ce soit en bonne voie.
Donc pour l'instant, donc le tribunal a suspendu la destruction de l'église, la démolition de l'église. Maintenant, il reste 600 000 euros à trouver pour la sauver.
Alors 600 000 euros, oui et non, parce qu'en fait 600 000 euros, c'est ce qu'avance la municipalité. Mais Urgence Patrimoine a de son côté fait venir un couvreur, un architecte pour évaluer des travaux moins coûteux. Et en fait, il semblerait qu'avec 100 000 euros, on parvienne à restaurer son clocher, qui représente la menace la plus urgente, et la mettre un peu hors de danger. Donc 100 000 euros suffiraient. Et il faut savoir qu'à la place, la mairie veut construire un jardin du souvenir et un parking dont les frais s'élèveraient à 120 000 euros. Donc finalement, c'est presque plus rentable de restaurer l'église.
À quoi est-ce qu'on attribue ? Parce que cette histoire, elle est emblématique, parce qu'en plus, elle se termine bien. Elle est aussi emblématique parce que c'est tout sauf un fait divers. Ce sont des faits qui se multiplient un peu partout sur le territoire. Généralement, c'est ça. C'est des maires de petites communes, en fait, qui d'un coup se réveillent avec une église en mauvais état, qui n'ont pas les moyens. Il y a une volonté politique, idéologique. Comment vous voyez ça ?
Alors sûrement une volonté idéologique. Mais alors je précise que pour l'église Saint-Go, c'est pas encore une histoire qui se termine bien, hein, parce qu'on sait pas encore ce qu'il va en advenir.
C'est un sursis.
Mais c'est une volonté politique, et en fait toujours le même schéma depuis la loi de 1905, la séparation de l'église et de l'État. Il revient à la commune d'entretenir leurs églises, et donc au début du XXe siècle, c'est vrai qu'il y avait pas mal de maires qui étaient anticléricaux et donc qui ont mis cet entretien de côté. Et au fil des années, l'église s'est complètement dégradée et après, la facture est devenue trop élevée, comme ça a été le cas ici.
Il y a 15 000 communes en France, donc un nombre d'églises beaucoup plus important. C'est un sujet, ça, Valentin Gore, en réalité, puisque on se retrouve avec un patrimoine extrêmement lourd. Enfin, il y a des dizaines de milliers d'églises en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un super ministre de la Culture, un super plan de sauvetage du patrimoine? Je crois que les associations spécialistes du patrimoine chiffrent cela à plusieurs milliards d'euros par an pour espérer ne serait-ce que sauver ce patrimoine.
Oui, absolument. Alors, je ne préconiserais pas, comme Madame Bachelot, de choisir de sauver une église et d'en laisser une autre périr. C'est ce qu'elle avait proposé lorsqu'elle était elle-même ministre de la Culture. Moi, je crois que le patrimoine, c'est vraiment, et c'est ce que vous dites, quelque chose de formidable, parce que c'est effectivement une politique finalement qui repose beaucoup aujourd'hui sur l'initiative privée. On peut citer les efforts de la Fondation du patrimoine. On voit que les Français, ils n'attendent pas toujours. Voilà un sujet où les Français n'attendent pas l'État pour agir. Et ce qu'on l'a dit, 4% du budget, 4,75% du budget du ministère de la Culture seulement pour le patrimoine, alors que ça devrait quand même être le cœur d'une action culturelle en France. Peut-être d'ailleurs tout est dans les mots. On parle de ministère de la Culture. Alors, André Malraux, c'était le ministère des Affaires culturelles, et encore avant, sous la Troisième République, c'était le ministère des Beaux-Arts. Donc il y avait peut-être une volonté, peut-être un peu plus humble, entre guillemets, au lieu de se dire on va inventer la culture du présent et de l'avenir, on avait finalement un ministère qui était plus circonscrit dans la défense tout simplement du patrimoine français. Peut-être qu'on s'est trop diversifié, notamment dans la création, et on voit ce que fait en région Pays de la Loire madame Christelle Morançais, qui a coupé dans les budgets de ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire ces magnifiques œuvres d'art qu'on voit notamment sur nos ronds-points dont on pourrait se passer, pour préserver en revanche la dimension patrimoniale.
Oui, et puis c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'exemples, justement comme vous disiez, de volonté d'habitants qui se mobilisent eux-mêmes pour sauver leur patrimoine. On a l'exemple tout simplement de Notre-Dame de Paris, c'est grâce à plusieurs mobilisations personnelles qu'on a réussi à lever quand même 900 millions d'euros pour sauver une cathédrale. Donc je pense que c'est possible de le faire à plus petite échelle pour différentes églises.
Jérémy Bouy.
Oui, vous l'évoquiez dans votre récit, donc l'église va être remplacée potentiellement, on espère que non, mais le projet c'est de la remplacer par un parking et le musée de...
Un jardin du souvenir, c'est-à-dire un mur avec un
seul mur de l'église. Paradoxe, parce que quel est le plus beau symbole à souvenir que justement une église qui date depuis plusieurs siècles et justement qu'on entretiendrait, qui serait un lien intergénérationnel entre les habitants, donc c'est absolument essentiel.
Oui, on précise qu'il existe 42 258 églises et chapelles, dont 40 307 appartiennent aux communes, selon un comptage de la Conférence des évêques de France en 2016. De toute façon, c'est un vrai sujet aussi, puisque 42 258 églises, tout en plus ou moins mauvais état, il suffit de voir dans le diocèse de Paris, certaines églises comme celle de la Madeleine, pourtant ô combien symbolique, état absolument cataclysmique. Est-ce qu'on a encore les moyens dans un contexte de déchristianisation totale, enfin dans un contexte où les églises, on le sait, il y a des profanations et des dégradations tous les jours dans les églises, aussi parce que ce sont des endroits qui sont devenus vides. Est-ce qu'on a, la France, encore les moyens d'entretenir un tel patrimoine qui finalement, vu le déclin du catholicisme en France, appartient peut-être plus au passé qu'à l'avenir? Si on était un petit peu provocateur,
cynique. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Bien sûr, c'est une question qui peut se poser. Moi, je rappellerai ce que m'avait dit un jour Stéphane Bern, que j'avais trouvé très intelligent. C'est ce qu'il a fait, lui, dans sa commune de Thiron-Gardais, dans le Perche. Rénover une église, ça sauve un village. Parce que pour des gens dans la ruralité, pour nos compatriotes qui vivent dans les campagnes, on leur a supprimé le commissariat, ça fait très longtemps. L'école, ça fait souvent 20 ans dans les villages qu'il n'y a plus. Maintenant, il y a une école pour 10 villages en France, avec des enfants qui font des journées à rallonge, qui passent leur journée dans l'autocar. Et puis, vous avez le bureau de poste qui a fermé. Et au milieu de tout ça, maintenant, on leur explique que l'église du village, qui est un peu la seule chose qui leur reste, on va maintenant la laisser s'écrouler. Moi, je ne crois pas, parce que c'est évidemment un patrimoine de proximité. C'est là l'attachement et la fierté des Français à leur petite patrie, parce que voilà, on a plein de petites patries qui en font une très grande, et je crois que le patrimoine, c'est un peu comme la défense, quand on met un euro dans le patrimoine, c'est de l'argent qui rapporte, c'est pas de l'argent qui coûte, parce que ça crée évidemment de l'intérêt dans les villages, ça peut recréer une vie locale qui peut ensuite générer, par exemple, du commerce. C'est le cas dans le village de Stéphane Bern, qui a été vraiment magnifié par la réhabilitation de ce monument historique.
Et je recommande d'ailleurs aux auditeurs votre dernier article, Étienne de la Ruffie, dans Valeurs Actuelles, puisque, et c'est un lien, à Vilaine, dans l'Indre-et-Loire, un collectif s'attaque à un calvaire au nom de la laïcité. C'est ça qui est absolument paradoxal, c'est on a des bonnes volontés qui s'échinent à essayer de maintenir des églises, et pendant ce temps, on a des citoyens qui, sous couvert de laïcité, s'acharnent à déboulonner les statues, à enlever les crucifix partout où ils le peuvent. C'est un peu cacher ses seins que je ne saurais voir. Il y a un lien finalement un peu entre ces deux histoires, sur la façon dont on perçoit justement ce patrimoine chrétien.
Oui, c'est vrai, à chaque fois ce sont des petites volontés personnelles. En l'occurrence pour le calvaire, c'est simplement une habitante du village qui a écrit au maire, qui a monté un collectif d'ailleurs anonyme, qui n'a même pas signé, donc le maire ne sait pas qui c'est, pour s'opposer, pour demander de déplacer ce calvaire. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Ce sont des Français qui refusent de voir des symboles religieux autour d'eux, par laïcité, par manque d'intérêt, par... Voilà.
On se rappellera de la fameuse histoire de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, une statue de Saint-Michel installée dans le quartier Saint-Michel, en face de l'église Saint-Michel, sur la place Saint-Michel, mais qui, pour la libre pensée, n'avait rien à faire là. Merci beaucoup, Étienne de la Ruffie, d'avoir été avec nous pour évoquer cette église de Kélène Saint-Gaud en Mayenne. On salue évidemment la décision du tribunal et on espère que des solutions financières seront trouvées pour maintenir cette magnifique église du XIe siècle à sa place, afin que l'église reste au milieu du village. Merci à vous. On revient vers vous, chers auditeurs, dans quelques instants, mais tout de suite, un petit message de votre radio.